Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Venez discuter, venez débattre avec les GG, avec les grandes gueules. Aujourd'hui, avec Charles Consigny, l'avocat, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. Avec Aurélie Cousinet, qui vient de Calin dans les Landes, mère au foyer, auditrice des grandes gueules. Et qui a décidé, enfin, on a décidé de la faire venir après 2-3 prestations au téléphone remarquées et qu'elle vienne échanger avec les GG. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs. Soyez bons au 32-16 et ensuite vous vous retrouvez 3 heures en direct avec nous en studio. De quoi va-t-on parler d'ici midi? On va reparler de la Russie avec. Vous avez eu la Russie, alors ils s'emmerdent pas, pardon pour l'expression. Les terroristes, on les arrête, on les torture et puis on les montre ensuite à la télévision. Comme ça, au moins, ça peut servir d'exemple. Est-ce que ça vous choque ou pas?
Les images... gens pensent que c'est même pas les vrais terroristes.
Hein. Les images, on les a vues sur les réseaux sociaux. Venez en parler avec nous. Le GG7 image tout à l'heure à 11h-20. Est-ce qu'on doit réduire les aides sociales pour essayer de combler notre déficit? Oui ou non? Oui pour Charles, non pour Bruno et Aurélie. 10h20.
Moi, je les ai listés ce matin. Ça va prendre 3 jours à toutes les cités. Donc j'ai listé les principales sociales en France.
Les tatouages en entreprise, est-ce qu'ils sont source de discrimination? Est-ce que vous-même vous pourriez embaucher quelqu'un qui est tatoué? Alors,
ah non.
Des pieds à la tête.
Allez, ZCF, si, visiblement.
J'étais embauché, c'est pas visible.
Tu sais ce que tu fais tout à l'heure? Tu pourras enlever ton sweat? Pour nous montrer tous les
tatouages. Mettre tenue ou pas?
Non, moi, oui, c'est ce que me demandait Aurélie. Mais
parce que j'en ai partout. Hein.
On va éviter d'arriver, Aurélie. Combien tu en as déjà?
Cinquantaine, je pense, en tout cas.
Cinquantaine de tatouages?
Ouais, mais il y a des petits, il y a des gros.
Et Aurélie, combien de tatouages?
À zéro.
Bon, ben, on en parlera tout à l'heure à 10h20.
Non, est-ce que c'est source?
Non plus.
Les enfants n'ont pas de tatouages.
Et s'ils veulent se faire tatouer?
Que ça soit quand même discret.
Elle lui pète une jambe s'il veut se tatouer. Allez,
la méthode russe.
On y va là maintenant pour parler du clash du moment. Pour ceux qui suivent Danse avec les stars, ils sont des millions. Le clash Inès Reg, Natacha Saint-Pierre.
RMC, les grandes gueules.
Alors là, les amis, il paraît que la France entière a choisi son camp, le camp Natacha ou le camp Inès, puisqu'il y a une altercation entre l'humoriste Inès Reg et la chanteuse Natacha Saint-Pierre. Ça s'est passé dans les coulisses de Danse avec les stars. Et maintenant, chacune donne sa version des faits dans des vidéos sur Instagram.
Je rentre dans leur salle, la musique est à fond, et je dis, excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son? À ce moment-là, Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée, elle regarde par terre comme ça, et elle dit, écoute-moi bien, petite salope. Elle m'attrape ensuite par le bras, comme ça, elle met son bras en dessous du mien, et elle dit, et maintenant tu sors.
Je me dis, moi, que je suis ici depuis que quelques jours seulement, je dois jouer le jeu et donner des moments en coulisses aux caméras. Je me souviens de l'altercation d'Inès avec Valérie Trier-Veller qui a fait le buzz dans Pékin Express. Puis je me dis, moi, je vais faire un running gag et je vais reprendre les mots de Valérie Trier-Veller. Et donc, j'ajoute, maintenant, petite salope, sors.
Mes blessures
et mes faiblesses.
Elles sont folles, non?
Celles que je vous cadre, c'est le niveau de gens qui ensuite dansent devant des millions de personnes. Quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un clash qui repose sur pas grand-chose, hein, on l'a bien compris. C'est-à-dire que Natacha Saint-Pierre veut lui faire une vanne, une référence effectivement à Pékin Express. Alors tout le monde l'ont pas, donc les gens disent petite salope, c'est quand même violent, mais c'est une référence à ce qui s'était passé entre Valérie Trier-Veller et Inès Reg, l'humoriste. Et visiblement, Inès Reg ne l'a pas compris comme ça. Elle a pris les choses au premier degré et s'est montée dans les tours. Et le problème, c'est que ça devient intéressant parce qu'Inès Reg se présente comme une victime de ses origines, puisqu'elle dit au début de sa vidéo « Moi, la Française d'origine algérienne, née dans le 93 ». Et elle parle de son entourage qui serait composé de Noirs et d'Arabes et qui aurait fait peur à la chanteuse blanche Natasha Saint-Pierre. Et donc, on arrive dans un truc en fait complètement identitaire où d'un côté, donc il y a ceux qui soutiennent Inès Reg parce que c'est celle qui serait victime de racisme et d'autres qui vont en condamner Natasha Saint-Pierre parce que ça serait la blanche méchante. Ça prend une ampleur considérable, à tel point que peut-être que le Conseil de sécurité de l'ONU sera saisi dans la journée pour régler ce conflit, on n'en sait rien. Mais en attendant, on voit bien que TF1 est très embarrassé parce que TF1 n'en parle pas du tout. C'est-à-dire que TF1 fait comme si ça n'existait pas. Il y a une émission ce week-end, ils n'en ont pas parlé. Est-ce qu'ils seront obligés de le faire le week-end prochain? Peut-être tout simplement pour réconcilier les deux personnes. En tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est les premières tendances. Hein. Par exemple, sur X, on ne parle que d'Inès Reg ou de Natasha Saint-Pierre. Alors, Inès Reg, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne savaient pas qui c'était, parce que c'est un peu générationnel. Donc, c'est une humoriste qui marche bien. D'ailleurs, TF1 y croit beaucoup, parce que je crois qu'elle a aussi engagé sur Mask Singer, etc. Voilà. Alors, est-ce que vous avez choisi votre camp?
Qu'est-ce que t'en dis, toi, Bruno?
Déjà, je trouve ça ridicule. Après, ce qui est quand même violent, c'est ce qui se passe sur les réseaux derrière, parce qu'il y a quand même des menaces de mort, il y a tout. Ça part en cacahuète quand même sévère, mais comme d'hab sur les réseaux. Après, moi, je me dis, on est quand même dans le niveau zéro. Aujourd'hui, on est quand même dans le niveau zéro. Déjà, culturellement, intellectuellement, c'est quand même tristoun. Hein. Et puis, alors moi, je serais plutôt du côté Inès Reg, parce que étant pour la préférence nationale, la préférence nationale, moi, je veux quand même pas défendre une Canadienne. À un moment donné, faut être raisonnable. Moi, je suis pour une jeune Française. Bien française, ben voilà, c'est elle qui. J'espère qu'elles vont se battre avant et qu'on mette un ring et qu'elles se tabassent un peu.
Un octogone.
Au lieu de danser, se battre.
Oui, oui, parce qu'en plus, moi, la danse, ça me fait de la mal. J'ai mal aux yeux quand je regarde ça, mais oui, que ça se tabasse un peu.
Charles Consigny.
Je vous avoue que ce conflit majeur me dépasse un tout petit peu. J'espère qu'il ne prendra pas des proportions trop importantes. Mais écoutez, moi, je regarde pas ces émissions-là. Je comprends pas comment on peut regarder ça, à vrai dire.
Alors ça s'est pas passé pendant l'émission.
Non, oui, mais
c'est les coulisses.
Le téléspectateur n'a rien vu
pendant les répétitions.
Parce que ça n'a pas été diffusé.
C'est dire l'émission elle-même, si vous voulez. Ça montre le niveau général dans cette émission. Voilà.
C'est tout bon pour TF1, ça.
Ça me laisse un peu pantois. En fait, si vous voulez, je suis frappé par la nullité de la production audiovisuelle contemporaine. Que ce soit ce genre d'émission ou, par exemple, tous ces films qui sortent sur Netflix. Des nouveaux films et des nouvelles séries tout le temps. Et ça m'arrive de les regarder parce que à ma salle de sport, par exemple, j'ai besoin de regarder un truc pendant que je fais du cardio à ma salle de sport. Donc, je regarde un peu ce qui sort parce que je regarde ce qu'il y a sur les plateformes. Et tout est nul. Je suis stupéfait de ça. L'incroyable incurie de la production culturelle, entre guillemets, parce qu'il faut vraiment le dire vite, contemporaine, quand je pense à ce que ça coûte, et quand même...
Ouais, bah, après, c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut, c'est comme je avant... regardais.
Non, mais...
C'est bizarre pour un libéral de dire ça.
Mais non, mais c'est pas ça. Mais d'abord, la production française, c'est quand même payé par les impôts français. Et ensuite, suis stupéfait TF1, par... Pas TF1, privé. Mais je te parle de tout ce qui sort sur Netflix, sur Amazon Prime, sur Apple, etc.
Voilà, on s'éloigne.
C'est l'abrutissement de la masse, tu veux dire.
Ce que je veux stigmatiser, c'est... Je cherche, en fait, quand est-ce que, dans la période contemporaine, on a proposé aux gens quelque chose qui soit de bonne qualité. Et je constate qu'on ne propose que des trucs débiles à des gens qui, malheureusement, sont de plus en plus décérébrés à force de regarder ces trucs débiles.
Aurélie, tu as choisi ton camp?
Est-ce qu'en famille, vous regardez Danse avec les Stars?
Moi, j'ai mes filles qui regardent.
Alors, je
ne regarde pas. Elles sont plus du côté d'Inès.
Oui,
mais bon,
génération.
Moi, je leur dis que c'est les deux. Enfin, c'est des gamineries, c'est des trucs d'école, merde. Et elles montrent quoi à la jeune génération de maintenant à s'afficher, là, chacune leur tour? Ouais, elle m'a fait ça. Non, c'est l'autre qui m'a fait ça. À un moment donné, c'est de la cour d'école. Moi, je dis TF1, prenez vos responsabilités.
Oui, mais derrière, il y a des menaces de mort.
Oui, mais TF1 prend ses responsabilités, elle les convoque toutes les deux en direct et elle s'explique en direct devant tout le monde.
Parce que maintenant, tu vas regarder Danse avec les Stars en disant j'espère qu'il va se passer des trucs.
Mais c'est parce qu'il va faire de l'audience.
Non, il ne l'assume pas puisqu'il ne le joue pas. C'est-à-dire que le téléspectateur de TF1 qui n'a pas été sur les
réseaux sociaux,
il ne sait pas ce qui se passe. Non, parce que si tu veux faire l'audience, si tu es un peu putassier, tu le joues.
Mais non,
la
mais
semaine
tu...
prochaine, tu fais la réconciliation en direct. Mais non. Tu les fais
venir. C'est pas question de faire la, réconciliation, c'est question de
faire. D'ailleurs, ce week-end, les audiences n'ont pas marché.
Elles pourront pas se réconcilier.
Mais pour montrer aux jeunes qu'il peut y avoir un dialogue entre elles. Donc TF1, il prend ses responsabilités et il les fait en direct toutes les deux. Parce que là, les gars, les jeunes, ils regardent. Ah ben, je suis avec Natacha. Ouais. Je suis avec Inès.
Donc TF1 doit organiser la réconciliation.
Ben, c'est pas forcément la réconciliation, mais expliquer le dialogue, leur expliquer leur histoire, de comment ça s'est passé et que elles-mêmes le fassent toutes les deux.
Ça monte tout seul.
Parce qu'il y en a marre, les gamins. Après, c'est eux, là, ils regardent, problème, ils se mettent dans un camp. Il y a pas de camp. Oui. C'est une histoire encore entre une 41 ans. Et une de 30 ans.
Oui, sauf qu'il y a du racisme.
C'est entre le. Non, non.
Ce qui fait flamber le truc, c'est que l'une l'accuse l'autre d'être raciste.
Mais pourquoi
Mais moi, je comprends pas d'où vient l'accusation de racisme.
Inès, ça se
C'est sur quoi ça se base si elle usait des vannes.
Elle m'a attaqué parce que je suis française d'origine algérienne et que mon entourage est noir et arabe. C'est ce qu'elle dit, Inès Reg.
Oui, mais faut arrêter avec cette paranoïa.
Faut arrêter de toujours incriminer.
Dans ce qu'on a vu des vidéos. On ne voit pas. Natacha Saint-Pierre fait une vanne qui est sans doute pas drôle et incompréhensible d'ailleurs parce qu'il faut
avoir initié.
Bah, Inès Reg avait la référence du coup.
Oui, du coup elle la traite quand même de salope. Oui. Mais ça n'est pas raciste de traiter quelqu'un de salope.
Un octogone. Ouais, un octogone.
Oui, mais ça aujourd'hui,
il faut arrêter de voir du racisme.
Oui, mais
partout.
Aujourd'hui, pardon, ceux qui ont critiqué Aya Nakamura en expliquant que c'était pas une bonne chanteuse ont été traités de racistes.
Enfin, ouais, la banderole.
Mais on
n'a même pas
mais ça, eux, c'est des racistes. Mais on a le droit de pas aimer Aya Nakamura et sans être traité de raciste. On arrive dans un niveau de débat en France où effectivement chaque prise de position est à l'aune d'une identité qu'on attaquerait et chacun serait jugé derrière son identité.
Alors attends, il y a Cyril qui veut intervenir au 32-16. Bonjour Cyril.
Bienvenue. Oui, bonjour à tous. Bonjour.
Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous de ce match?
Bon, la première chose, je suis artisan, je travaille toute la journée, je vous écoute de 8h à 19h, et c'est un régal. J'ai toujours le casque pour vous écouter, pour pas déranger les clients.
Merci,
et
Cyril.
Ça fait 10 ans que c'est le cas.
Parlez-en à vos clients.
Non, je voulais raconter une anecdote. Oui, j'en pense, effectivement, je suis côté Inès, parce que il y a 10 ans de ça, il y a Natacha Saint-Pierre qui est intervenue à la foire de Romans-sur-Isère, et qui avait eu 2h, 2h30 de retard, et il avait refusé de s'excuser auprès de son public, dont je faisais partie. Et tout le monde l'a hué, l'a sifflé, etc. Elle avait fini par mettre en cause l'organisation de la foire et le président de la foire, qui a ensuite pris son micro pour s'en défendre. Et en gros, il y a eu un clash en pleine salle de spectacle. Donc, je suis pas étonné qu'une personne comme Natacha Saint-Pierre fasse des clashs comme ça, notamment à Danse avec les Stars. Voilà.
Ah oui, donc selon vous, on a affaire à une chanteuse capricieuse, quoi, c'est ça?
Elle est connue pour ça. Une provocation. Moi, je regarde ce programme, c'est déjà pas facile de danser. Je regarde parce que c'est difficile de danser.
Et pourquoi vous regardez ce programme?
Elle a le droit.
Je dois lui poser la question.
Pour avoir essayé de danser, c'est très compliqué. Hein, j'ai un pied gauche et un pied droit. Mais en vérité, j'ai deux pieds gauches.
Oui, voilà.
Quand
on a un pied gauche et un pied droit, c'est pas facile de danser.
Non. Quand on a deux pieds gauches, surtout.
Avec un pied beau, par exemple, tu peux pivoter plus facilement.
Ouais. Je dansais mieux que Moscato quand même, mais en tout cas.
C'est pas difficile.
Vous exagérez, là. C'est pas un bon exemple.
En tout cas.
Et parce qu'ils font les malins, mais tu sais danser, Bruno? Tu danses bien? Tu pourrais faire danser avec les stars?
Je pense que c'est une danse très statique, Bruno.
Moi, si je veux faire. Voilà.
Et puis,
si
je fais en soirée, est-ce que tu lèves ou danses?
Moi, je vois, là, en ce moment, il y a eu de la grossophobie sur un des mecs de la danse avec les stars.
Nico Capone.
Ouais. Ben, je me dis que moi, si je vais pas, ce serait juste pour maigrir, en fait. Comme ça, je serais content, je prendrais un peu de muscle.
Aurélie,
il y a qui d'autre comme
soirée
dans cette émission?
Non, tu danses jamais en soirée?
Non.
Ah, tu restes assis sur le canapé?
Moi, je préfère rester assise.
Il y a qui d'autre dans Danse avec les
stars? Charles, tu danses?
Moi j'ai été un gros teufeur.
Oui, mais est-ce que tu danses?
Jadis, c'est la guerre.
J'ai jamais vu danser.
Si, bien sûr, je t'ai vu danser.
Mais je voudrais revenir vers Cyril.
Faire Danse avec les Stars.
Cyril, parce que vous dites, en fait, ça vous décomplexe de regarder Danse avec les Stars, c'est ça?
Non, c'est surtout ça. C'est un programme familial.
C'est un spectacle.
C'est un bon moment.
Attends, allez-y.
C'est un programme familial, tout comme Koh-Lanta en famille, on regarde ça le vendredi soir. Et c'est vrai que ce genre de choses n'a rien à faire dans un programme familial.
Non, mais vous regardez pour vous moquer.
Vous confirmez, Cyril, que vous avez vu le dernier numéro?
Oui.
TF1 ne parle pas du clash, c'est-à-dire que c'est un truc qui n'est pas dit, qui n'est pas raconté.
Non, bien sûr, mais on voit que ça fait le buzz énormément sur Internet. Vous pouvez pas
ouvrir une page
sans avoir ça. Donc voilà.
Mais est-ce que vous souhaitez que la semaine prochaine, il y ait voilà, qu'ils en parlent et qu'à un moment donné, ils se mettent les deux ensemble, soit ils se réconcilient, soit il y en a une qui est virée.
Ou... Non, qu'elles se jettent l'une sur l'autre.
Ouais, c'est ça tabasse. Qu'on veut. Mais moi, un octogone.
Mais non, mais maintenant qu'elles mettent le dialogue pour montrer aux jeunes, il faut montrer.
Non, mais il faut montrer au Canada qu'on est plus fort que qu'on la tabasse.
Sur les réseaux, elles s'affichent. Il y a la vieille génération Sacha et la nouvelle Inès, parce que Natacha, pardon, elle est oubliée. On s'en souvient pas d'elle, à part.
On fait des disques de musique chrétienne.
Alors, attends, on a Fred qui est avec nous. Bonjour, Fred.
Oui, bonjour.
Bonjour, Fred. Alors, vous avez entendu Cyril nous faisait part de son expérience personnelle en disant, elle était arrivée à un concert où on l'attendait, elle n'était pas excusée, etc. Alors là, il mettait la faute sur Natacha Saint-Pierre. Et vous, mon cher Fred?
En fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le petit souci qu'il y a dans la façon dont le sujet est abordé, c'est qu'il y a certains éléments qui sont quand même très importants pour la compréhension de cette histoire qui ne sont pas évoqués. À savoir que Natacha Saint-Pierre a été mise à pied par la production de Danse avec les Stars parce qu'ils ont visionné justement l'altercation qu'il y a eu avec Inès. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu plus grave qu'une simple chamaillerie entre...
Mais Natacha Saint-Pierre, si j'ai bien compris, a déposé une main courante avec son danseur.
Oui.
Alors, et le danseur confirme
aux victimes aussi.
Ce que dit Natacha Saint-Pierre.
Alors, ils se victimisent tous les deux.
Alors, oui, voilà, oui. Ils sont
alors, allez-y,
ce
allez-y.
Fait, c'est que Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, comme tu n'as pas réagi, entre guillemets Inès, comme tu n'as jamais rien dit, tu n'as pas réagi, j'ai eu peur que tu envoies des gens pour me casser les jambes. Donc, en faisant référence à son entourage, parce que voilà, c'était pas des
Français
de souche, entre guillemets. Donc, moi, je trouve que ces deux éléments-là, une fois qu'on les a, ça devient difficile d'incriminer Inès Reg, d'autant plus que
elle. Mais c'est elle qui se victimise et qui racisise, si j'ose dire, parce que je supporte pas ce terme de raciser, mais
non,
c'est elle qui.
Dans
sa vidéo, moi, ce qui me choque, Inès Reg, dans sa vidéo, c'est qu'elle commence en disant, moi, française d'origine algérienne, Natacha Saint-Pierre, elle commence pas par dire, moi,
si, Fred vient te le dire. Fred vient te le dire, elle a pas une main courante parce qu'elle a dit qu'elle allait se faire tabasser par des Noirs et des Arabes.
Non, elle a jamais dit ça.
Mais si,
elle a jamais dit ça.
Pour prendre une mise à pied de 3 jours, copain, faut en faire quand même.
Non, elle n'a jamais dit ça.
C'est même toi qui n'arrêtes pas de dire des méchancetés à tout le monde ici.
C'est parce qu'ils ont vu la vidéo. Inès, elle a dit, c'est parce qu'ils ont vu la vidéo. Si elle a eu les 3 jours de mise à pied.
Inès Reg commence son intervention. Et pourquoi elle le fait?
Alors,
et je trouve ça très intéressant. Je suis française d'origine algérienne. Le fait de dire ça la mettait tout de suite dans le camp des victimes.
Allez-y,
il n'y a pas de racisme dans cette histoire.
Si je peux en placer une.
C'est dur avec Olivier.
C'est très dur avec Olivier. Inès Reg, elle a simplement dit qu'elle n'a pas voulu justement faire de bruit parce qu'elle se disait, justement, les gens vont penser que c'est moi, parce que comme c'est moi, entre guillemets, qui suis d'origine étrangère.
Ah voilà.
C'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans les médias. Parce qu'au début, on a dit, Inès Reg est insupportable, Inès Reg menace tout le monde.
Mais on n'a pas dit qu'elle était insupportable parce qu'elle était d'origine algérienne. C'est vous qui faites ce rapprochement.
Non, mais quand on suit sa vidéo, elle le dit. Inès qui aurait dit à Natacha, petite salope.
Oui, mais du coup, il n'y avait pas la règle.
Imaginez ce qu'elle a. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, une arabe dire ça à une blanche, comment j'en aurais pris plein la tête.
Donc, par définition, celle qui est d'origine algérienne doit être la victime. Voilà.
Non,
c'est,
pas forcément.
C'est la conclusion.
Pas du tout.
C'est ce que vous dites.
Calme-toi, Olivier. C'est pas vrai.
Dans l'imaginaire collectif, elle a plus la tête de l'agresseuse que Natacha Saint-Pierre.
D'accord. Voilà, donc par définition, c'est bien ce que je dis, comme elle est française d'origine algérienne, elle doit se victimiser.
Merci Fred, on verra ce qui se passe dans les jours à venir sur cette histoire. Inès Reg, Natacha Saint-Pierre. Dans un instant, être tatoué, est-ce que ça peut vous empêcher d'avoir un emploi? Oui ou non? On va en parler avec vous au 32-16.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Aurélie Cousinet qui vient des Landes, elle est auditrice des GG. Elle s'était fait remarquer au 32-16, on a décidé de la faire venir dans les grandes gueules pour discuter, pour débattre avec nous. Et avec Charles Consigny, l'avocat, et Bruno Poncet, le cheminot et syndicaliste. Si on parlait tatouage.
RMC, les grandes gueules.
Sur le tatouage. chanson dénichée par Antoine. C'est nul, oui, je sais, mais c'est pas grave. Le problème, c'est qu'on est minoritaire dans la musique qu'on aime. Cher
Bruno. Posez-vous des questions, d'ailleurs.
Alors, on mourra avec nos idées, nous.
Oui, monsieur.
Alors,
c'est ce que dit Philippe Houtan.
Les amis, les tatouages. De plus en plus de personnes tatouées. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de salons de tatouage en France. C'est devenu un phénomène, mais ça reste discriminatoire. À l'embauche.
Oui, c'est une étude en fait qui le démontre, qui a été réalisée par une grande école de commerce et qui montre que les personnes tatouées restent encore perçues comme étant en fait assez peu fiables, peu sérieuses, extrémistes, moins compétentes, moins performantes, alors que le phénomène du tatouage s'est répandu. On le voit bien. Avant, c'était réservé pour les marins et ceux qui avaient fait de la tôle. Hein, en gros, hein, je résume. Il y a 20 ou 30 ans, et aujourd'hui, bien tatoué, c'est toutes les générations. C'est plutôt les jeunes. Enfin même. Maintenant, il y a des boomers qui sont tatoués. Ça touche tous les milieux sociaux. C'est un vrai phénomène. Donc, est-ce que cette discrimination a encore un sens ? Est-ce qu'effectivement, vous pourriez déconseiller à vos enfants de se tatouer pour trouver un boulot ? Je pose la question à Aurélie, qui a 6 enfants.
Non, moi, je ne les empêcherai pas de se tatouer si c'est quand même joli. Si c'est quand même joli et puis discret quand même. Parce que après, ça dépend le métier qu'ils veulent faire.
Ça dépasse du coup, sur le coup ?
Ça me dérangerait pas, mais ça dépend déjà si c'est quelque chose de gros ou petit. Enfin, comme je dis, j'aimerais que ça soit quand même léger, discret, pas tout recouvert. Mais après, ça dépend le métier qu'ils veulent faire, parce que maintenant il y a même des tatouages des yeux. Ça fait quand même un peu peur, ça. Enfin, quand on voit, il y a eu un prof qui était tatoué jusqu'aux yeux, qui faisait des maternelles. Il a été renvoyé, je crois, de l'éducation. Bah, je trouve un peu normal. Tatoué, c'est parce que pour des petits.
Il était un petit remplaçant. Oui.
Mais ça toujours. Fait peur pour des petits, excusez-moi. ça fait peur. Mais ça dépend le métier.
D'accord.
Un commercial, par exemple, vous n'allez pas envoyer quelqu'un, un commercial super tatoué.
Ou alors tu peux être super tatoué, mais à partir du moment où ça ne voit pas sous la veste.
Discret,
tout,
voilà,
la chemise.
Par exemple, pour un commercial, il y aurait quand même encore un préjugé. La personne qui arrive totalement tatouée, tu ne lui ferais pas forcément confiance.
Ben, c'est ça.
Ouais.
Et puis même mon conjoint, hein, électricien, il me dit, ben, moi, je n'embaucherai pas. Enfin, même pour les clients, tu vois une personne arriver, un tatoué, voilà. tu te dis, même, voilà, on en parle. Il me dit, moi, je n'embaucherai pas. Ah. C'est quand même, on regarde la société. Quoi. Enfin,
alors, attends, témoignage tout de suite au 32-16 de Nicolas. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes tatoué, Nicolas ?
Ah ouais, plutôt, ouais.
Ça veut dire quoi, plutôt ?
Le deux bras complet et le dessus des mains, les deux mains.
D'accord. Et ça vous a posé problème ou pas ? Vous êtes agent de sécurité ?
Ouais, en fait, il m'a été demandé de mettre des manches longues à l'été dernier, prétextant une obscure partie du règlement intérieur sur la tenue à avoir, et j'ai pas adhéré à ça. Le règlement me semblait, en tout cas dans ce truc-là, me semblait très subjectif. Mm-hmm. À partir du moment où j'avais pas d'évaluation de ce que c'était un tatouage ostentatoire ou alors trop massif de par sa taille ou par son nombre, moi je suis désolé, j'ai pas mis les manches longues. Voilà.
Ah oui, d'accord. Alors, vous êtes fait virer ?
Non, du tout.
Bon, alors.
Du tout. Non, mais je vois que, voilà, ça m'a choqué, en fait, c'est le fait qu'on me demande de le faire, qu'on me demande de cacher les tatouages. On est en 2023, à l'époque. Je pensais pas que ça arrivait encore. Je veux dire, j'ai plein d'amis dans la police et dans la gendarmerie avec qui j'ai beaucoup de contacts, qui, eux, ont des tatouages, on leur a jamais demandé de les recourir.
C'est des tatouages qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'ils sont...
Non, les avant-bras, bien...
Les policiers ont le droit de se tatouer aux avant-bras ?
Oui, bien sûr. Après, encore une fois, les règlements d'ordre intérieur parlent de tatouage non ostentatoire. Il est clair qu'on ne va pas se tatouer une croix gammée sur le bras, faut pas déconner non plus.
Non, ce serait mieux.
Maintenant, qu'est-ce qui est... Moi, par exemple, on m'a dit qu'une une tête de mort que j'ai sur un de mes bras, un crâne, qui est en fait un logo de Shirley Davidson, on m'a dit que ça, c'était ostentatoire. Donc le logo Harley Davidson devient ostentatoire.
Ça peut faire un peu peur, oui, mais les gens n'ont pas la référence. Ils ne voient que la tête de mort. Il y a un agent de sécurité qui arrive. Bon, en même temps, peut-être un agent de sécurité, ça peut faire peur, mais un policier arrive avec une tête de mort tatouée sur son avant-bras, je serais surpris, excusez-moi.
C'est pas trop crédible.
Bah oui, mais il faut arrêter d'être démago.
Alors,
franchement,
les gens d'aujourd'hui sont extraordinaires.
Est-ce que tu pourrais embaucher un tatoué au cabinet ?
Non. Les gens d'aujourd'hui sont extraordinaires. Ils voudraient que leur employeur soit contraint oui. de les embaucher, de tout accepter, c'est-à-dire que demain ils peuvent arriver oui. avec les cheveux violets et jaunes, un piercing dans le nez, il faudrait que tout ça soit totalement neutre et que bah non, je suis désolé, je sais pas moi si je suis demain, je vous dis n'importe quoi, un magasin de luxe qui cherche à accueillir ses clients dans des conditions à peu près apaisantes, avec des gens qui présentent un peu bien, pardon d'être réactionnaire, j'ai pas forcément envie d'avoir un punk à chien derrière la caisse. Enfin, je veux dire, c'est il faut arrêter avec cette époque là. C'est pareil, c'est ce que c'est la société des victimes. Ah, ouais. J'ai été discriminé parce que j'ai un tatouage. Et bah arrête
c'est
avec
la société.
Arrête de nous gonfler tes tatouages.
Acceptez-moi comme je suis.
Et peut-être que tu auras accès à l'emploi dont tu rêves dans un grand restaurant, ou alors travaille comme ingénieur informaticien. Là, je pense qu'on te gonflera pas forcément avec ton tatouage. Je trouve que il faut reprendre un peu de bon sens sur tous ces. Les gens sont libres de se faire tatouer. Ils doivent accepter aussi parfois certaines conséquences.
Les métiers, pour tous les métiers.
Et par exemple, cet homme. C'était un sketch quand même, qui était tatoué de la tête aux pieds, qui, pardon de le dire, qui devait quand même être totalement effrayant.
Ah oui, mais peur pour les
son
petits.
Prochain, hein. C'est pas lui faire un jeu
quand même.
De le dire.
Toujours, hein. Mais le national, il vire pas.
Non, mais surtout, pardon de vous dire, oui, bah, si j'étais ministre de l'Éducation, il aurait été viré, ce garçon. Pardon de vous dire que c'est quand même gonflé de sa part de se présenter devant des enfants en étant tatoué de la tête aux pieds.
Il était venu sur le plateau des GG et j'ai du mal à me souvenir quelle grande gueule était en face de lui, avait failli faire un malaise d'ailleurs. Il avait du mal à le regarder.
Ils sont fragiles, vos grands yeux.
C'est les yeux. Ouais, non, mais des tatouages,
moi, je suis parent,
des yeux.
Je sors mon enfant de l'école. Enfin, attendez, on est vraiment dans un truc où déjà on ne peut plus rien dire. On n'a pas le droit de dire que les tatouages, ça peut quand même poser problème. Et c'est la pub de McDo. On vous accueille tel que vous êtes. Hein. Je ne sais plus quel est le slogan, c'est ça.
Oui, c'est que McDo, c'est une référence de tous les métiers.
Voilà.
Quoi.
Ben, en fait, c'est ça. Et donc, il faut accepter maintenant la personne.
Alors, attends, on a Jérôme de Bretagne qui est avec nous. Et je remercie Nicolas de son exemple, lui qui était tatoué avec sa tête de mort. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Professeur dans un lycée agricole catholique.
Oui.
Tatoué.
Oui, tatoué, Charles va me détester puisque tatoué est professeur d'écologie en gros, donc.
D'écologie. Oh, putain, ouais. Alors là,
effectivement la double peine.
Voilà, Jérôme, vraiment vous êtes pas
mais
bien.
Mais alors,
hein.
Tatoué.
Attendez,
de manière...
Jérôme, je vais prendre votre nom complet parce que quand je serai aux responsabilités, je vais vous démettre de vos fonctions. Je note. Non.
Mais vous risquez pas grand chose. Il est républicain. Alors, ils font 3%.
Je les ai quittés avec vous.
Alors, Jérôme, tatoué de manière ostentatoire ou pas? On le voit.
Oui, on le voit complètement, mais ça a été fait progressivement. C'est-à-dire que j'ai été embauché il y a 30 ans. J'ai 53 ans dans un lycée agricole catholique, où évidemment, sur le règlement, c'était prohibé, et j'ai attendu que le règlement évolue, avec de l'humour des fois, puisque les vaches dans le champ, chez nous, elles ont tous des piercings pour les immatriculations, des bovins. Donc des fois, avec humour, j'ai un peu provoqué là-dessus, et le règlement a évolué. Je suis passé au piercing, je suis passé au tatouage, et j'ai eu vraiment aucun souci avec mes collègues, avec ma direction, puisque je faisais mon travail et je pense qu'à un moment j'ai fait mes preuves.
Mais ça se voit sur votre visage ou pas? Il y a des tatouages? Non, pas sur le visage.
Il y a un piercing.
Non, il y a tout, sauf le visage. J'ai toujours évité le visage.
D'accord. Les piercings, ils sont ailleurs, ils ne sont pas sur le visage.
Pourquoi cette passion tatouage?
Ça exprime des choses que j'ai en moi. D'accord. Donc il y a beaucoup d'images de nature, d'animaux en voie de disparition, évidemment. Ça a un lien avec.
Vous avez une photo. Marine Tondelier, elle est tatouée ou pas sur. Vous avez le visage de Marine Tondelier ou de Madame Rousseau?
Non, je suis resté uniquement sur les animaux.
D'accord.
Donc vous avez des animaux tatoués, en fait.
Oui, voilà, oui. Beaucoup d'animaux tatoués, des végétaux. Ouais.
Ah, c'est cool, ça.
Ouais, mais ça a des valeurs aussi pédagogiques, c'est là-dessus que je voulais intervenir, c'est-à-dire que les élèves viennent me voir, on est aussi plusieurs maintenant dans le lycée, et ils viennent nous demander des conseils, et justement on les met en garde sur le projet. Moi, un tatouage, c'est quasiment 5-6 ans de réflexion, de dessin, de discussion avec mon tatoueur. Ouais,
Mais voilà. Ça se voit pas sur vos mains non plus.
Si, complètement.
Ah, si, partout.
D'accord.
Mais oui, mais je pense que ça dépend des métiers qu'on fait. Peut-être que prof de lycée sur l'écologie, ça n'a pas de conséquences. Je pense qu'un avocat, par exemple, et je parle en face de Charles Consigny, un avocat, il ne sera pas tatoué les mains, quoi, par exemple. J'imagine que
tu peux pas.
Je connais des meilleurs avocats de France qui ont défendu dernièrement des grandes causes avec des tatouages. au poignet et même sur la main. Mais après, on peut avoir une vision.
Qui ça?
Bah, je dirais pas le nom parce que c'est à elle de le dire. Mais moi, je connais des gens tatoués qu'on défend. Bah,
c'est pas non plus un secret, mais c'est visible.
Ben, par exemple, Olivia Ronan, allait voir ses poignets. Voilà. Et oui, c'est quand même pas n'importe qui comme avocat, tu vois. C'est pas, voilà.
Les poignets tatoués.
Oui, mais c'est les poignets, c'est caché.
Oui, c'est caché, mais quand tu relèves les manches.
C'est une des avocats de Salah Abdeslam.
Mais quand Charles, il relève les manches, tu vois bien qu'à un moment donné, tu vois.
Mais écoutez, moi je pense. Après, chacun fait comme il veut. Je pense moi que par exemple, c'est faire courir une sorte de risque à son client. Je trouve que de se présenter devant des juges qui sont quand même.
Bienvenue dans la frange giscardienne.
Mais non, mais qui sont en général, Bruno, pas des galurons, si tu veux, les magistrats français. C'est pas exactement l'ouverture d'esprit.
Tu parles de justice, mais en fait,
qui en caractérise
aujourd'hui
certains.
Le tatouage est devenu
donc
comme
c'est
beaucoup
mieux
de choses.
Pas prendre de risques.
Oui, mais dans plein de.
Parle-nous un peu de toi, Bruno, parce que tu es tatoué.
Bah, oui, je suis tatoué.
Moi, j'ai commencé 50 tatouages.
J'ai commencé à 18 ans. Le jour de mes 10 ans, je me suis fait tatouer.
Est-ce que dans ton boulot, puisque c'est l'objet de la discussion,
dans ton boulot, façon de parler.
Est-ce que dans ton boulot de cheminot, tu as, on t'a fait des remarques, etc.
Non, parce que
face à la clientèle.
Moi, je suis rentré à SNCF. J'en avais déjà beaucoup, mais je m'étais pas fait les avant-bras. À l'époque, je faisais attention à ça. J'ai pas fait les avant-bras ni les mains. Et donc c'était des parties qui étaient pas forcément visibles. Si j'en avais un, je crois en dessous le poignet, mais ça se voyait pas trop. Et en fait, moi je m'étais dit, je ferai attention à ça et tout pendant le temps, parce que moi mon premier tatouage c'est en 90. Hein. En 90, je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas démocratisé comme maintenant. Donc je faisais un peu attention. Et puis après, avec le temps, évidemment, moi il y avait pas d'incidence sur mon travail. Et puis quand même, j'aurais été en contact avec la clientèle. Je veux dire, t'achètes un billet de train. Les contrôleurs, certains sont tatoués, ça affole personne en fait. Et toi, tu parlais des policiers, mais les policiers, par exemple, les policiers, quand ils sont en manche courte, il y a deux solutions. Soit ils ont les tatouages apparents, on leur dit rien, soit on leur demande de mettre des espèces de brassières, comme ça, tu sais, qu'ils font que le bras.
Ouais, bien sûr.
Ou des trucs comme ça, parce qu'à un moment donné, ça, c'est comme ça. Et puis Charles a raison, peut-être que dans la magistrature, tout ça, c'est faut être discret. Je connais plein de tatouages, il y a des juges qui sont tatoués énormément. Mais par contre, un truc qui est sûr, c'est que ça devenait un argument marketing. Tu vas aux Galeries Lafayette, tu vas au Printemps, tu vas trouver des vendeuses d'origine maghrébine, tu vas trouver des vendeuses d'origine asiatique pour attirer la clientèle. Tu vas en face à Citadium, qui est un magasin plus jeune, qui vend des fringues de skateurs, tout ça. Gars, ouais. Tu vois, la plupart des jeunes sont tatoués, c'est même un argument marketing. D'ailleurs, si moi, j'avais pas 50 piges, j'aurais peut-être traîné un truc comme ça, en fait, tu vois. Parce que j'ai le look pour travailler là-dedans. Après, je comprends que ça puisse encore choquer, mais moi, je suis hyper surpris qu'en 2024, on soit encore là-dessus.
Et pourquoi le tatouage, ça dit quoi, en fait? Pourquoi il y a des discriminations?
Je sais pas, mais tu vois, regarde.
Qu'est-ce que ça dit quand tu te tatoues?
J'en sais rien. Mais regarde notre consultante psychologue, qui est psychologue clinicienne, Jonah Rosenblum.
Oui.
Elle est sur les plateaux, elle est tatouée. Elle est tatouée sur les bras. C'est des petits tatouages. Et pourtant, elle vient parfois expliquer la psychologie de tueurs, de meurtriers. Elle est là et puis elle s'en cache pas.
Oui, mais sur les bras, les mains, c'est pas pareil que sur la tête, le visage, les yeux, se couper la langue, piercing à la langue.
Oui, il y en a un, j'ai vu qu'il ressemble à un reptile.
Il y a des limites.
Si c'est ton banquier, tu hésites quand même à lui confier ton argent.
Alors, il y a une limite quand même.
Source de discrimination, le tatouage en entreprise. Je remercie Jérôme de nous avoir parlé en toute liberté. Lui, le professeur tatoué. Source de discrimination, non. 57,3%, 42% de oui. Vous êtes des progressistes, enfin en partie.
Bah pas sur tous les sujets, j'ai pu comprendre.
Tatoué progressiste. Je sais pas si tatoué Bruno Le Maire, on aurait pu lui demander hier.
Oui, je crois, ouais.
Il a les courbes des déficits.
Il a dit qu'il allait se faire tatouer le chiffre du déficit.
Non, mais dans le dos, il avait le visage de Sarkozy dans le dos, il se l'est barré, il a mis le visage de Macron.
Pour réduire le déficit, est-ce qu'il faut réduire les aides sociales? Oui pour Charles et Olivier, non pour Bruno et Aurélie. Et vous venez débattre avec nous au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous avez la première heure des Grandes Gueules qui est déjà à disposition sur les podcasts via notre appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Aujourd'hui dans les GG, l'avocat Charles Consigny, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. Nous sommes avec Aurélie Cousinet qui est auditrice des Grandes Gueules. Elle habite dans les Landes, elle est maman de 6 enfants. Son compagnon, son mari est artisan électricien. Elle est fidèle des GG. Et comme on l'a remarqué plusieurs fois au 32-16, on lui a proposé de venir s'asseoir à la table des Grandes Gueules. C'est fait, tout va bien pour le moment, ma chère Aurélie.
Ça va, merci.
C'est conforme à ce que tu regardes à la télé ou que tu écoutes à la radio.
C'est assez impressionnant d'être là, mais ça va.
Allez. On est sympa, à part Alain Marchal.
Ouais. Ça va, oui.
Il faut quand même plus vieux que
moi. Quand les micros sont fermés, je ne te parle pas. De toute façon, c'est comme ça.
Il est odieux, Alain en antenne, il est odieux.
Puis ils font vieux quand même. Quand tu les vois en vrai, tu dois trouver vachement vieux en fait. Hein. Le maquillage, ça cache pas tout.
Ça fait quoi d'être dans la même équipe que Bruno Poncet? Dans tes pires cauchemars, t'aurais jamais pensé ça?
Non, il y a des fois, je suis d'accord avec lui. Mais pour le travail, je suis pas d'accord avec lui.
Oui. Alors, mais les associés, t'es d'accord?
Et pour des choses comme ça, après, ça dépend.
Tu peux toujours changer de camp.
Voilà. On a le droit de changer de camp. Hein.
Ça, c'est la spécialité d'Olivier. Ça.
Allez, on y va. Quoi, c'est parti pour le GG7 et
match. Bruno, mais je t'ai
RMC. GG7 et match.
Donc, on a le montant du déficit 5,5 en 2023, le chiffre qui dépasse largement les prévisions du gouvernement. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était l'invité des grandes gueules hier. Il faut chercher de l'argent. Alors quand on regarde où est-ce qu'on peut trouver de l'argent, la grosse masse de dépenses, ce sont les dépenses pour la protection sociale. Ça représente un tiers du produit intérieur brut. C'est 848 milliards. Ça correspond à 12 250 euros par habitant. La vieillesse, 217 milliards. La maladie, 183 milliards. La famille, 39,8 milliards. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Alors, est-ce qu'il faut réduire les aides sociales, oui ou non? Oui pour Charles et Olivier, non pour Bruno et Aurélie. Mon cher Charles, tu nous expliques pourquoi il faut les réduire. Tu as les 60 secondes.
Écoutez, je pense qu'il faut réduire toutes les dépenses publiques. Je pense que la France est droguée à l'État. Je pense que les Français sont drogués à la protection de l'État, qui, à mon sens, est en plus une protection totalement illusoire, puisqu'elle repose sur un système qui va vers sa faillite. Et on voit bien là à quel point le gouvernement est mal à l'aise avec le dérapage qui s'annonce. Je pense qu'il y a des aides qui sont très contre-productives. Par exemple, l'aide pour le permis de conduire qui existe, je pense qu'elle ne fait que enrichir un système d'auto-école qu'il faudrait totalement remettre à plat. Je pense que les APL ne font que monter les loyers et que donc c'est de l'argent qu'on donne en pure perte aux propriétaires. Je pense qu'il y a beaucoup d'économies à faire sur le train de vie de l'État aussi. Alors, c'est pas les aides sociales, mais ce sont d'autres économies qu'on pourrait faire sur le transport médical, sur tout un tas de sujets comme ça. Donc, pour moi, je suis contre ce que dit Madame Braun-Pivet. Madame Braun-Pivet qui explique que sur la hausse des impôts, il faut pas avoir de tabou. Madame Braun-Pivet qui habite quand même dans un hôtel particulier aux frais de l'État et qui a autant de personnel que le roi d'Angleterre. Donc, elle nous explique que il ne faut pas avoir de tabou sur les hausses d'impôts. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou sur la baisse des dépenses publiques.
Réponse.
Mais moi, je trouve que ce que dit Charles, ça pourrait presque être entendable, sauf qu'à un moment donné, il faudrait déjà que les gens gagnent suffisamment pour pouvoir vivre et faire vivre leur famille. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les salaires aussi bas, et en fin de compte, leur quotidien ne peut être rythmé que par des aides sociales parce que les plus bas salaires.
Parce qu'on leur ponctue beaucoup, ça.
Non, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi qu'on les paye pas. Et il faut toujours, moi, je pense que le système tient aussi au fait que tu donnes des aides, le gouvernement se retire d'un tas d'endroits, mais quand tu as des aides sociales, ça permet à ses amis du capitalisme de payer pas cher les gens parce qu'ils se disent,
ça c'est vrai.
Ce que je donne pas cher à quelqu'un, ça sera compensé par le gouvernement. Donc en fin de compte, c'est le système actuel qui est carrément à l'envers.
Oui, mais ça n'est pas que ça, Bruno. Si les gens sont mal payés aussi, il y a certes une certaine mauvaise volonté de certains employeurs, c'est vrai. Il y a une pression à la baisse sur les salaires qui est forte, mais il y a, comme le dit Olivier, la différence stratosphérique et qui fait presque marrer tout le monde de désespoir. Maintenant, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, cette différence insensée entre le brut et le net. Et cette différence, c'est quoi? C'est le système social.
Oui, mais t'es bien.
Ce sont nos cotisations.
Malheureusement, on va être obligé de mettre un bémol, mais t'es quand même bien.
Qui
t'es
paye
bien
ce système?
Quand t'as eu l'hôpital, t'es pas avancé l'argent. T'es quand même bien content quand t'es gamin avant l'école de pas être obligé d'acheter les choses.
On le paye déjà.
Oui, mais on le paye. Avec ça, ça s'appelle du salaire différent, en fait.
Regarde, quand tu regardes le déficit public, pourquoi il y a un déficit public? Le déficit public, c'est la dette de demain. Hein, donc, le déficit, donc on dépense plus que ce qu'on reçoit. Et donc derrière la dette qui continue, et donc on paye les intérêts de la dette. Et aujourd'hui, les intérêts de la dette, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Donc en plus, c'est de l'argent qui ne sert pas finalement à faire vivre le pays. J'ai listé, mais ça allait très vite. Quelques aides sociales, les prestations sociales, c'est plus 3,3% en 2022. Hein. En 2023, c'était plus 1,2% en 2022. Ça progresse chaque année. C'est quoi? C'est l'allocation familiale, c'est l'allocation d'entrée scolaire, l'allocation personnalisée, l'aide SNCF, l'aide au permis de conduire, l'aide personnalisée au logement, la garantie Locapass, la garantie visale, l'aide mobile jeune, la garantie jeune, la prime activité, la prime de naissance, toutes les aides au transport, carte Navigo, carte avantage jeune, les aides à l'emploi ou la reprise d'emploi, le RSA, la prime d'activité, l'ARPE, la CMU. Et encore, je n'ai listé qu'une partie. On est les champions du monde des aides sociales.
Tout le monde n'a pas droit à tout. Oui, je suis d'accord avec vous deux sur le plan qu'il faut faire aussi des économies.
Tout le monde touche au moins une de ces aides.
Oui, mais il faut faire attention aussi. Mais en même temps, moi je vois, quand on voit les salaires des ministres, députés, des dépenses qu'ils ont pour un portable à l'année ou quoi, sur quoi à eux est basé leur salaire?
C'est-à-dire?
Mais nous, quand on voit les infirmières, elles travaillent quand même H24 pendant 3 jours. Elles vont avoir un jour de repos, elles vont repartir 2 jours. Les gendarmes aussi vont pareil, ils vont travailler pendant 7 jours, hein, que certains ils en pouvaient plus, hein, pendant qu'il y avait la guerre un peu partout. Ils sont basés. Il y a un tarif horaire. Bon, moi j'aimerais savoir sur quoi est basé le tarif, le prix, le salaire des ministres et des députés pour toucher 15 000 euros par mois. Et pas faire autant qu'une infirmière.
Mais il est passé à 10 000, ça réglera
non,
pas.
Mais il est passé à 1 000, parce qu'il paye pas d'électricité, il paye pas d'eau, il paye pas les transports, c'est nous.
La démagogie.
Mais c'est nous qui payons tout pour eux.
Enfin, elle vit dans un hôtel particulier qu'elle ne paye pas.
Mais d'accord.
Elle vit dans le 93, chez Sevran. Chez Sevran, chez Caris, on verra, ça sera contente.
Pourquoi toujours lui, il travaillait à faire les restrictions d'abord partant du haut de la pyramide?
Aurélie. On ne peut pas se plaindre de la chute spectaculaire du niveau des responsables politiques. Je rappelle que Madame El Haïry, qui est ministre, dit « ne jetez pas l'opprobre » pour dire « ne jetez pas l'opprobre ». Donc il y a quand même des lacunes.
Ah bon, c'est pas la bonne expression, c'est pas.
Donc il y a quand même des lacunes qui sont graves. Cette dame est ministre. Donc pardon, mais pour avoir des gens d'un niveau correct dans le secteur public, moi par contre je suis pour assumer de les rémunérer correctement. Les rémunérer correctement, ça veut pas dire les rémunérer grassement, et ça ne veut pas dire justifier le train de vie incroyable de l'État. Il faut savoir que ce sont des gens, pour certains d'entre eux, je parle des ministres et des gens comme Mme Braun-Pivet, etc., qui n'ouvrent même pas les portes au sein des endroits où ils vivent et travaillent, puisque vous avez des huissiers en livrée qui sont là pour ouvrir les portes.
Charles, pourquoi tu n'enfiles pas une obligation de résultat? Pourquoi tu n'as pas une obligation de résultat à ces gens-là? Nous, on a tous une obligation de résultat dans notre travail.
Mais l'obligation de résultat, ils l'ont avec le scrutin.
Mais non, ils l'ont pas.
Mais
non,
ils sont balayés.
Mais non, mais regarde, ils font monter les RN, ils disent, regardez, les méchants sont en face.
Mais ça, c'est de la stratégie politique.
C'est le débat.
Il faut dire les choses. Non, franchement, honnêtement,
je ne veux pas.
Non, mais écoutez, franchement, je vois par exemple dans ma génération, plus personne d'un niveau correct ne veut faire de politique. Il n'y a plus que des dingues et des débiles qui veulent faire de la politique, honnêtement. À la limite, les hauts fonctionnaires, membres des cabinets, c'est encore un autre sujet. Mais là, d'ailleurs, ils sont souvent mieux payés que les politiques.
Revenir au sujet.
Je suis d'accord avec vous pour dire. Pourquoi on dit ça? C'est parce que.
Mauvais avocat.
Pour demander la baisse d'aide sociale, qui donc par hypothèse sont perçues par des gens en situation déjà de précarité, il faut demander aussi des économies substantielles aux gens qui sont en haut. Pardon, mais moi par exemple, quand j'entends Monsieur Moscovici, contre lequel je n'ai rien à titre personnel, je suis sûr que c'est quelqu'un de très compétent et de très sympathique, il nous demande tout le temps des économies. Il est président de la Cour des comptes, il touche quasiment 30 000 euros de revenus mensuels publics. On ne peut pas demander imposer des baisses d'aide sociale si on ne montre pas un effort
qu'on a fait ça
très significatif. Une fois qu'on a fait ça, il faut évidemment supprimer des tas d'aides sociales.
Tu bénéficies desquelles, toi, par exemple, Aurélie?
Moi, j'ai l'allocation familiale, l'allocation logement.
Mm-hmm.
Voilà, c'est tout. Après, j'ai la rentrée scolaire pour les petits. Je les habille. C'est pas pour moi.
Elles sont nécessaires, vraiment, ces aides. Tu pourrais t'en passer ou pas?
L'allocation pour la rentrée scolaire, par exemple. Ouais. Pour la rentrée scolaire, pour les amener chez le coiffeur, qu'ils soient bien, que je les habille. Parce que des tennis, des baskets, j'en achète tous les 2-3 mois.
Mais oui, ça va vite.
Hein, ouais. Les pantalons, pour les garçons, c'est vite troué, vite abîmé.
Ils grandissent.
Donc, ils grandissent. Ça coûte cher.
Faut que tu ailles chez Chine.
Si ton mari était un peu mieux payé, est-ce que tu aurais besoin de toutes ces allocations?
Non.
Non.
Ben non. Donc parce que déjà, on les enlèverait de l'URSSAF, là, tout ce qu'on cotise. Bah,
Oui, mais
parce que l'URSSAF, ça coûte une blinde.
Mais ce que tu touches en aide.
En fait, on te
prend. Oui, mais on me les laisserait. On me les prendrait pas sur l'URSSAF.
Oui, mais Aurélie, tu viens toucher du doigt le problème, c'est que
eh bien,
on peut prendre un côté pour te le redonner.
La discussion,
si on ne le prenait pas, on n'aurait pas besoin de te donner.
Mais entre-temps, le socialisme
en tombe la moitié. On arrête de les prendre et se comme ça.
La discussion va continuer dans un instant. Est-ce qu'il faut réduire les aides sociales, oui ou non? On verra où on en est dans la consultation. Restez avec les grandes gueules et on vous attend au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.